Frédéric Michelon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du directoire de la TECOER. On va parler avec vous de votre actualité, hein, puisque il y a une double actualité pour vous, c'est la présentation de vos résultats et puis également donc un projet de refinancement. Commençons, si vous voulez bien, par le refinancement. C'était essentiel pour la TECOER de trouver une solution.
Oui, je pense que c'était absolument indispensable pour la TECOER de pouvoir définitivement tourner la page, je dirais, des rendez-vous à intervalles réguliers avec nos créanciers. Afin de discuter des conditions dans lesquelles on pouvait réaménager notre dette. Donc, on va dire qu'on a profité de la dynamique créée par l'arrivée de nouveaux créanciers pendant l'été, qui ont racheté une partie très importante de notre dette auprès de nos banquiers historiques. On a profité de cette dynamique pour effectivement engager ces discussions autour d'une restructuration financière de la dette, qui aujourd'hui nous permettent de réduire notre dette des deux tiers et au groupe de disposer d'une enveloppe d'une centaine de millions de new money.
Il n'était pas possible de se refinancer à des coûts plus faibles, parce qu'on voit ce qui se passe sur les taux auprès de banques. C'était forcément passé par ces fonds d'investissement.
Compte tenu de la structure financière extrêmement déséquilibrée du groupe, hein, 310 millions de dettes pour une centaine de millions de fonds propres, ce n'était pas envisageable. Il fallait d'abord réduire de manière significative la dette du groupe, et c'est ce qui a permis de faire cette opération de restructuration financière.
Pour les actionnaires de la TECOER, les actionnaires individuels actuels, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'il va y avoir une dilution importante pour eux?
Alors c'est vrai que bon, les efforts qui ont été demandés à tous sont importants et on en a bien conscience. Important pour les actionnaires, important aussi pour les créanciers qui ont accepté de faire un effort et à ce titre de participer à cette restructuration de la dette. Cette opération, donc l'opération de recapitalisation du groupe, se fera en fait en deux temps, à travers une augmentation de capital réservée qui sera limitée à 20% du montant total de l'augmentation de capital. Cette augmentation de capital sera souscrite par le biais de la conversion d'une partie de la dette détenue par les créanciers en actions. Et puis une deuxième augmentation de capital, là donc qui représentera un montant de presque 180 millions d'euros, visant à permettre là à l'ensemble des actionnaires actuels de participer à travers l'exercice de leurs droits préférentiels de souscription.
Comme toujours, quand on parle de fonds d'investissement, il y a des questions sur bien la durée finalement pour ces fonds. On sait qu'ils ne sont pas là pour. Ils sont pas philanthropes, donc ils sont là pour combien de temps? Est-ce qu'on le sait d'ores et déjà aujourd'hui?
Alors, soyons réalistes, personne n'est philanthrope. Les sociétés sont là pour gagner de l'argent et les personnes, entre guillemets, qui aident au financement de ces sociétés, que ce soit des créanciers ou que ce soit des actionnaires, sont là aussi pour gagner de l'argent. L'objectif fondamental pour nous, et c'est là, ça explique la raison de la longueur de ces discussions, était que l'on partage avec nos créanciers futurs actionnaires à la fois les enjeux auxquels était confronté le groupe et la meilleure façon d'y répondre. Ce qui nous a permis de partager avec eux les grands éléments du projet stratégique que j'ai communiqué aujourd'hui à la fois à la presse et aux analystes financiers. Donc leur investissement au sein de la TECOER s'intègre complètement dans cette logique d'un redéploiement de la TECOER qui doit s'exécuter sur les 4 ou 5 prochaines années.
À moyen terme, ça veut dire la TECOER aura toujours besoin de trouver un actionnaire de référence, comme on dit.
Alors, cet actionnaire de référence, il existe aujourd'hui. Ce sont précisément ses créanciers, les deux principaux, que sont Apollo Monarch. Donc, comment la situation évoluera dans le temps? Elle évoluera en fonction de la réussite de notre projet de repositionnement. Et puis, à cette occasion-là, effectivement, un certain nombre d'autres créanciers, d'autres actionnaires, pardon, pourront souhaiter rejoindre le capital du groupe.
Alors justement sur ce plan stratégique que vous avez dévoilé aujourd'hui, la principale problématique pour la TECOER aujourd'hui par rapport à ces donneurs d'ordre, c'était quoi? C'était une question de process industriel, de besoin de fonds de roulement trop important. Quel était, je dirais, ce que vous avez identifié de plus critique?
Alors, je pense que fondamentalement, ce qui a, je dirais, motivé la nécessité de remettre à plat un peu le projet stratégique du groupe, c'est l'évolution des attentes, entre guillemets, de nos principaux donneurs d'ordre, les avionneurs, qui veulent aller vers des solutions plus intégrées, qui veulent aller vers des solutions qui sont plus facilement, je dirais, et plus rapidement industrialisables, plus facilement aussi manufacturable et de pouvoir aller éventuellement jusqu'à l'installation sur avion. Donc il est important de ce point de vue-là pour la TECOER de sortir de son approche actuelle qui est véritablement d'assemblier pour devenir davantage un systémier. Et aujourd'hui, on a les atouts pour le faire. On a les atouts parce qu'on a des compétences en matière de structure qui sont importantes. On a des compétences fortes en matière électrique, ce qui nous permettront d'accompagner la migration vers l'avion plus électrique. Et on constitue un pôle de service de plus en plus fort qui nous permet là aussi d'avoir une approche complète et de couvrir l'ensemble des prestations en commençant par la partie ingénierie et design et en allant potentiellement jusqu'à la partie installation sur avion.
Ça demande des réorganisations, de reconfigurer un certain nombre d'activités. Qu'est-ce que ça demande concrètement?
Ça passera par effectivement la poursuite de l'effort de réorganisation qui a été enclenché maintenant depuis 18 mois. Ça passera aussi par, je dirais, un renforcement de notre outil industriel de manière à pouvoir accompagner non seulement la hausse des cadences, mais aussi permettre cette transition de la TECOR vers un business model, c'est vrai, qui sera significativement reconfiguré.
Le marché sur votre marché sur les prochains mois, il est à court terme, il est comment votre marché? Justement, on se pose des questions un petit peu sur l'aéronautique, en disant il n'y a plus de programme, il y a un petit peu un creux dans les programmes. Comment vous
Alors
voyez
c'est
les
vrai
choses?
que bon, vraisemblablement jusqu'aux années 2020, alors il est difficile de fixer un horizon de temps extrêmement précis, mais on n'aura pas de nouveaux programmes. On est véritablement dans une phase où on continue à bénéficier, je dirais, de la hausse des cadences et progressivement de la montée en puissance dans les prochaines années des versions remotorisées. Donc ça crée des opportunités quand même de développement, des opportunités de croissance, mais qui, il est vrai, sont beaucoup plus ciblées que par le passé.
L'effet dollar, ça a eu un impact, effectivement, cette appréciation du dollar, ça a eu un impact pour vous?
Alors, l'appréciation du dollar, elle a un impact très positif pour l'ensemble, je dirais, de l'industrie aéronautique. Dans notre situation, on applique une politique de couverture systématique de nos flux de l'ordre de 18 mois en avance. Donc aujourd'hui, l'intégralité de nos engagements en dollars, parce que notre exposition au dollar est importante, hein, elle représente près de 400 millions. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on est intégralement couvert sur nos engagements dollars jusqu'à un horizon de 18 mois, donc mi-2016. À partir de mi-2016, il nous reste à mettre les opérations de couverture nécessaires, et donc opérations de couverture qui se feront nécessairement dans des conditions plus avantageuses que le taux budgétaire que l'on retient, qui est de 1,35.
À moyen terme, l'ATECOR à venir, quelque part, quelle serait sa définition pour vous? Comment vous l'imaginez?
Le LATECOR à venir, je pense, restera un acteur, je dirais, de taille intermédiaire, mais avec un centre de gravité probablement légèrement déplacé vers nos activités d'équipement et vers nos activités électriques, de systèmes d'interconnexion. Parce que c'est véritablement ces activités, au même titre que les activités de service, sur lesquelles aujourd'hui on veut donner la priorité en termes d'investissement. Nos activités en termes d'aérostructurier sont importantes en termes de compétences. Elles représentent une partie très très forte de nos savoir-faire en matière d'ingénierie. Il y a des opportunités intéressantes pour le groupe, à condition de savoir se positionner davantage, je dirais, sur les sous-ensembles de structures complexes, qui eux sont directement impactés par les programmes de remotorisation, plutôt que les activités, je dirais, plus classiques de grosses pièces de fuselage, sur lesquelles, effectivement, nous avons une taille qui n'est pas suffisante, entre guillemets, pour se positionner comme acteur de référence.
Merci Frédéric Michelin d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.